Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu soit béni pour ce jour où nous serons dans le ciel. Alors on va faire quelques lectures, je vous inviterai même à les noter, car la méditation de ces textes chez vous pourra certainement vous faire beaucoup de bien. Premièrement, on va lire le témoignage d'un homme dans le livre des Actes. Au chapitre 4, verset 36, il nous est parlé d'un homme. Et les apôtres ont changé le prénom de cet homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelle merveilleuse expérience. Acte 4, verset 36. Regardez comment les apôtres ont appelé un certain Joseph. Acte chapitre 4, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Ce qui signifie « fils d'exhortation ». Amen. Vous ne trouvez pas que c'est bien? Vous vous rendez compte? Dans l'église, il s'appelait Joseph. Tout le monde l'appelait Joseph. Et puis il faisait tellement de bien aux autres, il exhortait tellement les gens, qu'ils ont dit non, Joseph, pourtant c'est un beau prénom, Joseph ça veut dire « il enlève et il donne, Joseph ». Mais c'est pas beau ça? Que les autres vous appellent Barnabas. Quel prénom vous aimeriez qu'on vous donne, hein? Vous n'aimeriez pas qu'on vous donne ce style de prénom? Ton prénom, il ne te va pas bien. Celui qui t'irait bien, c'est Barnabas. Que Dieu nous accorde la grâce que ce que nous recevrons de sa part fasse de nous des fils d'exhortation. Je crois que les temps que nous vivons nécessitent que dans l'Église, il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui fassent du bien aux autres. C'est important ça. Dans le prophète Habacuc, vous savez, Habacuc était un simple vigile, enfin une sentinelle. Aujourd'hui on dirait vigile. Habacuc était un prophète. Il a reçu des choses très sévères de la part de Dieu par rapport au peuple d'Israël, qui était mal, qui était dans le péché, qui vivait dans la désobéissance. Alors, ce n'est pas étonnant que certaines choses sévères étaient adressées à ce peuple de la part de ce prophète qui se tenait devant Dieu. Alors, on va lire deux textes qui nous intéressent. Dans Habacuc, au chapitre 3, il entend ce que Dieu veut faire, ce que Dieu va faire. Et bien sûr, il est perturbé, il est saisi de crainte. Habacuc, chapitre 3, verset 2. Habacuc, chapitre 3, verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Donc là, on voit un homme qui connaît Dieu. Il sait que la colère ne peut pas être évitée, mais il demande que la compassion de Dieu soit son partage. À la fin de ce chapitre, bien sûr, ça continue, il y a vraiment... On y reviendra tout à l'heure, certainement, pour terminer. Il y a vraiment, regardez au verset 17, on voit qu'il y a un malheur qui va s'abattre sur Israël parce qu'ils n'ont pas obéi. Vous voyez, verset 17, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Et c'est triste, hein? C'est triste. Hein? Regardez la réaction du prophète. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Vous voyez, la foi, c'est ça. Je veux. C'est la volonté. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Vous voyez, tout est désagréable. Mais lui, il connaît Dieu. Donc, il sait très bien comment se comporter, même si tout va aller mal. Et c'est important pour nous aujourd'hui que nous le reconnaissions. Dans le psaume 16, je vous donne ces textes parce que ce sont des témoignages. Vous savez, on a besoin de voir comment les gens se sont comportés lorsque la colère de Dieu venait dans certaines époques. Dans le psaume 16, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure pour introduire le moment de prière. On a vu les attributs que David donne à Dieu tellement il le connaît. Et au verset 7 de ce psaume 16 qu'on a lu tout à l'heure, et regardez, il est tellement imprégné de ces choses. Regardez ce qu'il dit. Psaume 16, verset 7, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. » Les choses de Dieu faisaient tellement partie de sa vie qu'il en était complètement pétri. Ça fait que même la nuit, quand il se réveillait, eh bien, son cœur était complètement tout le temps dans cet état d'exhortation. C'est ce qui a dû arriver à ce fameux Joseph qu'on a appelé Barnabas. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tellement imprégnés des choses de Dieu que ça finit par ressortir. De toute façon, vous le savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. N'oubliez pas que ces hommes n'avaient que les 5 premiers livres de la Bible. Nous, ça nous est super facile parce qu'on a toutes les Écritures. Mais n'oubliez pas que ces gens n'avaient que les 5 premiers livres de la Bible, le livre de l'Alliance. Tiens donc, le livre de l'Alliance, parce que voilà, les gens vous parlaient du Pentateuque, de la Torah, du livre de l'Alliance. Il y a 2 façons de voir la Bible. Je sais très bien qu'il y a plusieurs façons de lire la Bible, mais au moins 2. Les gens, oui, la Bible, ah oui, ce sont des lois, des ordonnances, des préceptes, des commandements, il te faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est une façon très, très, très mauvaise de voir la Bible. Et il y a une façon de la voir lorsqu'on connaît Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui se révèle à l'homme. La Bible, c'est Dieu qui s'est révélé. Dieu, il se révèle pour montrer ce qu'il est. C'est ça, la Bible. C'est sûr que si vous ne voyez que des lois et que des commandements, que des interdits ou des obligations, ça ne va pas aller bien loin. Mais si vous voyez un Dieu qui se révèle, à quoi correspondent les promesses de Dieu ? Pour qui il les fait, sinon pour nous ? Pourquoi il a fait des promesses, Dieu ? Pour qui ? Pour lui ou pour nous ? Pour nous, bien sûr. Et des promesses qu'il tiendra. Quand vous connaissez Dieu, c'est pour ça que David était pétri, c'est pour ça que j'ai pris le témoignage de Joseph. Ce n'est pas par hasard. Si l'on appelait fils d'exhortation, c'est parce que cet homme, il était pétri de ces choses. Et ça finissait par ressortir. Donc David a été enseigné. Quand il était petit, sa mère certainement devait lui raconter des histoires de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vos parents vous ont raconté des histoires bibliques ou non. En tous les cas, David, il a choisi. On le voit, on le sait, c'est sûr, croyez-moi, il a choisi de méditer pour lui. Parce qu'il aimait le Seigneur de tout son cœur, il a choisi de méditer. C'est ça la méditation. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Est-ce que vous la lisez comme un livre ou est-ce que vous la lisez pour que ces choses imprègnent votre cœur et que ces choses fassent véritablement partie de votre vie? Vous savez, le peuple, quand vous comparez David quand même c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour devenir roi d'Israël et faire des choses extraordinaires. Et le peuple d'Israël, lui, avait le même Dieu. Est-ce qu'ils avaient le même Dieu ? Ben oui. Est-ce qu'ils avaient la même loi ? Eh oui. On pourrait se dire, mais comment ça se fait ? Ils avaient la même parole, ils avaient les mêmes enseignements, les mêmes pasteurs, etc. Et certains sont devenus des hommes de Dieu et certains sont devenus religieux. La religion, ça ne sert à rien. La religion, ça paralyse l'alliance, justement. On n'y comprend rien. Ils récitaient des textes. Ils récitaient des prières. Vous priez ou vous récitez des prières ? Eh bien, c'est une question qu'on peut poser. Quand je prie, est-ce que je prie pour prier ? Est-ce que je me confie dans la prière ? Ou est-ce que vraiment je me confie à un Dieu ? Vous avez lu les psaumes ? Vous les avez lus ? Tous ? Vous les avez tous lus ? Oui, j'espère. Vous n'avez pas beaucoup, il y a 150, c'est pas le bout du monde. Hein. Quand vous regardez les psaumes de David, la plupart, écoutez bien, la plupart de ces psaumes ont été écrits dans des périodes d'épreuves. Dans des périodes difficiles, dans des périodes où il rappelle, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait ? Il rappelle ce que Dieu s'est engagé à être. C'est important quand vous priez de dire, mais Seigneur, tu as promis de pourvoir. Est-ce que vous croyez que Dieu pourvoit ? Donc quand il exprimait ces psaumes, qui étaient inspirés, parce que dans la souffrance, vous voyez qu'on peut, avoir des propos qui sont très inspirés. Et David rappelle ce que Dieu avait dit qu'il serait. Regardez, on a lu tout à l'heure dans le jeûne et prière, on va y venir, psaume 18, parce qu'on était dans le psaume 16. Regardez. Je voudrais que nous comprenions bien la différence entre la religion et la grâce. La religion qui paralyse et la grâce qui libère. Psaume 18 au verset 2, c'est David qui parle. Hein. Il a fait une expérience, il a été délivré. Quand je vous dis que tous les psaumes ont été écrits, souvent, beaucoup de psaumes, beaucoup, ont été écrits dans des périodes de crise. D'ailleurs, on va lire au début, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Vous voyez, il était dans une période conflictuelle, difficile. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Vous avez vu déjà, en deux phrases, David exprime quelque chose qui était déjà décrit dans le livre du Deutéronome. Regardez avec moi, c'est important. N'oubliez pas que David lisait la parole, les cinq premiers livres. Ce n'est pas venu par hasard. Regardez, Deutéronome chapitre 32. Il faut comprendre ces choses. Les gens, souvent, ils ne réalisent pas comment, pourquoi David est devenu comme il est devenu. Eh bien, c'est facile à comprendre quand on est en campagne. Oui, c'est facile. Enfin, presque. Deutéronome 32, verset 4. Il a lu ça quand il était petit, à l'école du dimanche. À l'école du dimanche, Deutéronome, l'école du samedi, Deutéronome 32, verset 4. On va lire le verset 3, vous voyez. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Est-ce qu'il l'a dit souvent, ça, David? Rendez gloire à Dieu. Vous voyez? Il est le rocher. Tiens. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Il lisait que Dieu était le rocher d'Israël. Regarde avec moi dans... Alors on peut lire, attendez. Psaume 32, verset 4, verset 30. Vous voyez? Comment un seul en poursuivrait-il mille et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Voyez, on voit, il a lu, c'est sûr qu'il a lu ces choses, ça c'est sûr. Regarde avec moi dans le livre de la Genèse. C'est là qu'on comprend l'importance de méditer. Genèse 49, verset 24. Mais son arc et demeurait ferme, ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Mettez-vous à la place de cet enfant qui lisait, ou à qui on lisait ces textes. Combien de fois a-t-il lu Genèse 49 ? Qui c'est Dieu ? C'est le berger, le rocher d'Israël. Il a lu ça. Mettez-vous à la place d'un enfant de 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'il ne s'est pas arrêté là-dessus? Qu'est-ce qu'il a composé comme psaume? Le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Mais vous comprenez bien que la révélation, il l'a reçue en lisant, entre autres, le psaume Genèse 49. Il est devenu le berger d'Israël. Il est devenu le rocher d'Israël. Et David disait, il est mon rocher. Il se l'est attribué. C'est facile de dire, Dieu est le Dieu de l'Église. Dieu est le Dieu des chrétiens. Dieu est le Dieu des croyants. Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. Mais lorsqu'un homme, à cause d'une expérience, il ne va pas dire, oui, Dieu est le rocher d'Israël. Dieu est le berger d'Israël. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon rocher. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que beaucoup de chrétiens sont comme Lot, ils suivent tonton, Abraham, vous vous rappelez? Voilà, il y a des gens qui suivent Dieu, vraiment qui suivent Dieu, et il y a des gens qui suivent ceux qui suivent Dieu. Et leur expérience, elle est pitoyable, elle est souvent pas profonde. Ça veut dire que des gens y croient, alors si quelqu'un rétrograde, paf, il rétrograde. Mon mari va plus à l'église, oh ben je vais plus à l'église. Vous voyez, ici. Ah, mon mari, il était chrétien, il n'est plus chrétien, mais je ne vais plus à l'église. Oui, c'est des gens, ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent des gens qui étaient susceptibles de le connaître, Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. David, et ça vaut la peine peut-être de prendre tous les psaumes, tiens, pendant les vacances. Hein. Et tiens, je vais relever tous les attributs que David a donnés à Dieu. Ma forteresse, mon libérateur, mon souverain bien. On l'a lu tout à l'heure dans le psaume 16. Mon bouclier. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites à Dieu, tu es mon bouclier? C'est une image poétique où vous croyez vraiment que Dieu vous protège? Est-ce que vous le croyez vraiment? Qu'est-ce que vous avez appris de Dieu? Je ne sais pas, une question pour vous gêner, pour nous gêner. C'est une question pour nous amener plus loin. Qu'est-ce que j'ai appris de Dieu? par rapport à tous mes besoins. Qu'est-ce que ça veut dire quand je chante « Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous mes problèmes, il les connaît, etc. » Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? Quand je lis dans le Nouveau Testament que Dieu est le Dieu de toute consolation, il est le Dieu de toute consolation. Vous le savez, c'est où? C'est écrit où? Je te garde quand même. Hein. C'est dans les Corinthiens, c'est bien. C'est une chose de dire « Dieu est le Dieu de toute consolation ». Est-ce que vous pouvez dire « Il est mon consolateur ». Lorsque j'étais dans le deuil, je vais prier le Seigneur. Il m'a consolé. Il est mon consolateur. Vous savez, quand on va lire dans toutes les églises du monde, dans 4 ou 5 jours, on va rappeler la prophétie d'Ésaïe. Vous connaissez la prophétie quand l'ange prophétise, on va la lire, tiens, c'est dans Ésaïe 8, si je ne me trompe pas. On va la rappeler, j'espère que c'est ça, Ésaïe 8. On va rappeler cette merveilleuse prophétie, 9. Ésaïe 9, verset 5. Voilà, c'est le cas de figure qui nous préoccupe. Voilà. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Voilà la prophétie qui est lue, depuis 2000 ans, depuis plus de 2500 ans, mais depuis que Jésus est né, dans toutes les églises, au siècle des siècles, tous les ans, dans les périodes de Noël, on rappelle cette prophétie extraordinaire, Ésaïe chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller. » Vous vous rappelez quand David disait « Il est mon conseiller ?»« Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc, voilà, est-ce qu'il est? Bon, il est le Père éternel, d'accord, je sais, c'est dans la Bible, c'est un des attributs de Dieu. Vous savez combien il y en a d'attributs de Dieu à peu près?
150.
Ouais, 150. Père éternel, est-ce que ce soir vous pouvez dire, dans votre cœur, ne lutte pas haute voix, il est mon Père, c'est mon Père. Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que vous pouvez dire Jésus, Dieu et mon Père. Vous pouvez le dire? Mais vous êtes heureux si vous le dire. Parce que c'est la vérité. Et si nous nous appliquions, vous voyez, à développer une communion avec le Seigneur qui ferait incontournablement que ce que nous allons recevoir va se transformer en expérience. C'est pour ça que j'ai pris le témoignage de Joseph, qu'on n'a pas pu faire autrement que de l'appeler Barnabas, et que c'est dans la parole de Dieu, pour nous prouver que ça peut être également notre expérience, que Dieu peut changer notre nom, on le voit souvent dans la parole de Dieu, des hommes à qui Dieu a changé le nom, pourquoi? Parce que leur personnalité spirituelle avait évolué au fur et à mesure qu'ils découvraient le caractère de Dieu. Et si nous nous appliquions vraiment, je peux vous dire qu'on chanterait différemment tous les cantiques que l'on chante. Oui, Jésus-Christ est tout pour moi. Je pensais à ce cœur justement quand j'ai préparé. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Est-ce que nos paroles sont des paroles religieuses qui servent à rien, sinon à décourager les gens? Ou est-ce que nos paroles reflètent véritablement notre expérience? Regardez dans le psaume 62. C'est intéressant parce que bien sûr c'est des psaumes de David qui parlent du rocher, il l'a lu. L'a-t-il lu une fois? L'a-t-il lu 50 fois? Quand il était dans les champs et qu'il voyait un rocher, tiens, hein, je l'ai lu, c'est hier, ma mère me l'a lu, que le Seigneur Dieu est le rocher d'Israël. Ah tiens, ça va, je vais composer un cantique, psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Alors? Vous pouvez le dire? Ou vous vous confiez en Dieu? Ou vous vous confiez en vos sentiments? Ou en vos efforts? Est-ce que ça vous arrive? Je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive, une fois, ça peut arriver, de ne pas avoir eu le temps de prier? Est-ce que ça peut vous arriver? Soyons honnêtes. Ben oui. Alors, c'est là le concret. Est-ce que ça vous gâche la journée? Ou est-ce que vous dites, Seigneur, c'est pas grave? Enfin, c'est pas grave. Je me confie en toi quand même. Comprenez ? Il y a des gens, ils vont pas prier. Imaginez, quelqu'un prie tous les jours, 10 minutes, un quart d'heure, c'est son temps, il a besoin d'un quart d'heure, il prend un quart d'heure pour prier. C'est bien ? Oui, c'est bien. Et un matin, le réveil sonne, il éteint, il part vite, il n'a pas prié. Il est, toute la journée est catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas passé son quart d'heure dans la prière. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a appris à se confier en Dieu ? Non. Il se confie dans ses efforts. C'est sûr que si quelqu'un marche avec Dieu, il bloquera du temps pour se retrouver seul avec lui. Ça, c'est sûr. C'est certain. Et si quelqu'un n'a jamais de temps de communion avec Dieu, c'est la preuve qu'il n'aime pas Dieu. Il pense l'avoir, il aimerait l'aimer, mais il ne l'aime pas. Mais une chose est sûre, c'est que nous ne devons pas nous confier dans nos efforts. Nous ne devons pas nous confier dans nos sentiments. Il y a des gens, ils sont contents. Quand tout va bien. Hier soir, il y a une dame qui m'appelait, je ne la connais pas. C'est une rétrograde. Elle revient à Dieu, elle m'a écrit pour des trucs. Et puis je lis au téléphone. Et puis elle m'a dit, vous savez, monsieur, en ce moment, si vous saviez comment Dieu me bénit, oh, c'est pas possible comment Dieu me bénit. Vraiment, je suis contente. Et si vous ne bénissez pas, alors il y a un petit blanc au téléphone, et si vous ne bénissez pas, pendant quelque temps, vous continueriez à l'aimer ? Alors j'ai senti dans la réponse qu'il y avait plusieurs directions. Mais mes frères et sœurs, je crois qu'il faut faire attention. Les promesses de Dieu, elles sont merveilleuses. Vous êtes d'accord ? Il y a des promesses, en veux-tu, en voilà dans la Bible. Mais moi je fais quand même la différence entre les promesses de Dieu et le Dieu qui a fait les promesses. Et je crois que ce qui a fait que beaucoup de gens ont décroché, c'est parce qu'ils se sont plus appuyés sur les promesses que sur le Dieu qui a fait les promesses. Un enfant, un bébé, prenons un bébé de 1 mois. 1 mois, c'est pas vieux. Vous êtes d'accord avec moi ? Un bébé de 1 mois, il prend trois fois par jour, je ne sais pas combien, 4 fois par jour, la tétée, hein, il prend le sein de sa mère. Vous me suivez ? D'accord ? Franchement, le bébé de 1 mois qui prend le sein de sa mère, de quoi il a besoin ? Des promesses de sa mère, tu sais mon fils, quand tu auras 18 mois, je t'achèterai un nouveau baby gros. Il a 1 mois et 3 jours. Je t'achèterai une nouvelle poussette. Bleu parce que tu es un petit garçon. Tu sais, quand tu auras 3 ans, je t'achèterai un beau jean. Est-ce qu'il a besoin des promesses, le bébé de moi, ou est-ce qu'il a juste besoin de sa maman ? Et je crois que c'est une belle image de la véritable communion. Vous savez, il y a un psaume que j'aime beaucoup, moi c'est le psaume 131. David exprime cette vérité. Ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé, vous le comprenez bien. C'est biblique. Dans le psaume 131, n'oubliez pas que David est roi. Il est roi. C'est quand même un homme qui a des responsabilités énormes. D'accord ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quelqu'un qui a été élevé au plus haut poste d'un pays. C'est un homme de guerre. Il fait son travail. Et regardez ce qu'il dit. C'est précisé que c'est le psaume de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Vous voyez, cette humilité. Il est resté humble, David. Pourtant, il aurait pu dire, écoute, je suis le roi d'Israël, tu comprends bien, Seigneur, que j'ai plein de choses importantes à m'occuper. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Et il exhorte les autres, vous voyez, on aurait pu l'appeler Barnabas à David. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose qui caractérise un chrétien, c'est qu'il fait les choses maintenant et pour toujours. Et là, il exprime vraiment cette affaire. Pourtant, David connaissait les promesses. Vous avez vu, je l'ai déjà dit, il y a 40 livres dans la Bible qui parlent de David. Il a écrit les psaumes en veux-tu et voilà, je pense que tous les psaumes qu'il a écrits ne sont pas dans la Bible. C'est un homme qui a vécu des choses formidables. Et là, il exprime ce que je suis en train de vous dire, c'est que lui, il n'est pas quand même obsédé par les promesses, il est focalisé sur la présence de Dieu. Et c'est ça, mes frères et sœurs, qu'il faudrait que nous comprenions bien. Tant mieux si je suis, si je sais que Dieu s'appelle Jéhovah Jiré. Je vous pose une question. Bon, Dieu s'appelle Jéhovah Jiré. Qui c'est qui a donné ce nom? Qui c'est qui a donné ce nom à Dieu? C'est qui? Abraham. Vous savez, quand Dieu a pourvu, il a donné à Dieu ce nom, Jéhovah Jiré, Dieu qui pourvoit. On voit dans la parole de Dieu ces hommes qui ont découvert la personnalité du Seigneur et qui ont donné à Dieu un caractère, un nom, un caractère qui lui correspond. Mais soyons simples. Vous savez ou vous ne savez pas que Dieu s'appelle l'Éternel qui pourvoit. En vérité, ça change quoi? Si vous ne le savez pas, est-ce que ça va empêcher Dieu de pourvoir? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les promesses de Dieu. Tant mieux. Moi, je pense que c'est une faveur et un confort de plus que de connaître les promesses du Seigneur. Mais même si vous ne les connaissez pas, il est fidèle à ses promesses. Et tant mieux si, au fur et à mesure que je découvre la parole de Dieu, je découvre de nouvelles promesses. Tant mieux. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que nous, on pense. Ce qui est important, c'est ce que Dieu est. Ce qu'il dit, lui, pas ce que vous, vous imaginez. Il y a des gens, ils ne vivent pas par la foi. Habacuc a été écrasé par la colère de Dieu qui allait tomber sur Israël. Mais il comprend, il le connaît. Il a une communion avec lui, donc il fait la différence entre les fléaux qui vont s'abattre et puis le fait que lui, il connaît Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu voudrait que nous découvrions. Ne vous énervez pas après des promesses, j'ai besoin d'une promesse. Oh, si Dieu pouvait me donner une promesse. Vous vous rappelez l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, il a subi une infirmité. Il a subi une infirmité, et bien sûr, ça ne lui convenait pas. Il pensait que ça allait le bloquer dans son ministère, et il nous a dit qu'il a prié. Il a prié une fois, et Dieu ne lui a pas répondu. Il a prié une deuxième fois, et Dieu ne lui a pas répondu. Je ne pense pas qu'il a prié 2 minutes. Il a prié une troisième fois, et à la troisième fois, Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit, je vais te délivrer de ton infirmité. Est-ce que c'est ça que Dieu lui a dit? Non. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire, Pour simplifier, ma présence te suffit. Et c'est exactement ce que je voudrais que nous comprenions. C'est que quand vous lisez les textes sous ce regard-là, vous comprenez qu'en fin de compte, Dieu suffit. Il suffit. Qui c'est le plus grand? Ses promesses ou Dieu? Est-ce que Dieu est plus grand que ses promesses? Bien sûr que oui. Et c'est là, moi je comprends maintenant pourquoi des gens rétrogradent, pourquoi des gens voient tout balader, pourquoi des gens s'énervent contre Dieu, mais parce qu'ils ne le connaissaient pas. Comme cette dame hier soir qui m'a dit, Monsieur Gouin, en ce moment je suis super béni, c'est super génial et tout. Je dis, vous savez, quand vous serez dans l'épreuve, j'espère que vous aurez la même attitude. Quand vous connaissez Dieu, je peux vous dire que vous ne regardez pas ça. Tant mieux pour les bénédictions. Mais c'est souvent dans les épreuves. Si David n'avait pas connu toutes ces épreuves, on n'aurait pas 150 psaumes. Croyez-moi, je peux vous le dire. Avoir l'âme comme un enfant sevré. Voilà ce que Dieu veut. Seigneur, je veux rester dans ta présence. Je ne connais pas toutes tes promesses. Moi, je pourrais vous en citer des dizaines par cœur. Mais moi, ça me gêne pas que vous ne les reteniez pas. Par contre, j'aimerais que vous reteniez que la présence de Dieu est suffisante. Pour tout. Sa présence, est-ce qu'elle vaut mieux que 1000 promesses? Moi, je crois que oui. Vous savez, c'est important. J'avais lu un témoignage, il y a quelques années de ça, pour expliquer cette affaire, c'était un homme qui expliquait qu'il y a un criminel qui est confronté devant le juge. Et bien sûr, le criminel, il est affairé de tout un tas de pensées, il ne sait plus quoi penser, et le juge, lui, va donner son verdict. Qu'est-ce que c'est qui était le plus important? La pensée, les pensées compliquées de l'accusé ou les pensées du juge? C'est quoi le plus important? Les pensées du juge. C'est ça qui allait déterminer le résultat. C'est pour ça que ce que nous pensons, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Ce qui est important, c'est ce que Dieu nous promet. ce que Dieu a dit qu'il ferait. Et David a pu écrire, il est mon rocher. Le peuple d'Israël disait, il est le rocher d'Israël, il est la forteresse d'Israël, il est le berger d'Israël. Mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai dans le sens où il ne le vivait pas. Mais croyez-moi, quand David a écrit les psaumes, il est mon berger, il est ma forteresse, il est mon libérateur, c'était la vérité. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il ne faut pas dépendre des émotions. Je vous l'ai déjà dit, le nombre de gens, oh, monsieur Gau, ce matin, vous avez senti la présence de Dieu. Je n'en ai rien à faire, moi. Non, mais ça vous fait rire, mais moi non. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu la foi à cause de ça. Le Seigneur, il est là. Il est toujours là. Voilà, vous le sentez ou vous ne le sentez pas, mais ça n'a aucune importance. Mais le résultat, c'est qu'il y a plein de gens qui ont perdu la foi à cause de leurs émotions, à cause de leurs sentiments, à cause de leur ressenti, etc., etc. À cause de leurs efforts. Bien sûr qu'il faut faire des efforts. Et bien sûr qu'il faut se demander si notre foi est agréable à Dieu. Est-ce que je fais valoir le talent que Dieu m'a donné? Bien sûr, comme est-ce que je prie avec ferveur? Et vous voyez, on peut se remettre en question d'une manière, mais il n'y a pas que ça. Derrière tout ça, il y a le regard de Dieu. Vous avez vu Habacuc, on relit le comportement d'Habacuc. Je vous assure, la colère de Dieu va venir, et c'est exactement ce qui se passe sur notre pays. La colère de Dieu va venir à cause de l'apostasie, à cause de l'infamie, à cause de l'homosexualité. On le sait, c'est écrit, c'est pas moi qui l'invente. Ces choses amènent la colère de Dieu, et Habacuc l'exprime. Il exprime bien que cette colère, elle va venir. Mais regardez le choix qu'il fait. Regardez le choix qu'il fait. Habacuc chapitre 3, verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Vous voyez, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les émotions, c'est la volonté. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Lui aussi a expérimenté cette affaire. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevé, c'est-à-dire qu'il s'élève, il marche, même si le terrain est difficile, comme ces biches, vous savez, ou ces bouquetins qui montent dans les montagnes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des reportages animaliers, des fois, comment les bouquetins montent dans les rochers, c'est extraordinaire. Vous n'avez jamais vu ça? On se demande comment ils font. Eh bien, Habacuc utilise cette image. C'est escarpé, c'est difficile, c'est compliqué, mais moi, Dieu me monte plus haut. Je veux me réjouir. Je veux comprendre ces choses. Mes frères et sœurs, ça va aller de plus en plus mal. Vous le savez, c'est écrit. Et ne me dites pas que je suis négatif, je ne suis pas négatif du tout. C'est la vérité, ça ira de plus en plus mal, mais nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur. Je le répète, Dieu est plus grand que ses promesses. Et ses promesses, elles sont merveilleuses, c'est clair. La parole de Dieu est remplie de promesses. Mais moi, je peux vous dire, si tout d'un coup, on avait un problème d'amnésie, si on avait un problème neurologique et qu'on oublie les promesses, je peux vous dire que ça n'empêchera pas Dieu d'être fidèle à sa parole, d'être fidèle à ses promesses. Il est notre Dieu, notre rocher, notre forteresse. Est-ce que ce soir, vous pourrez dire, oui, je peux m'endormir tout à l'heure en disant, il est mon Père, j'ai accepté la croix, j'ai accepté son sang précieux, il a versé, etc. Vous pouvez vous réjouir dans le Dieu de votre salut? Vous pouvez rentrer ce soir et dire, oui, je me réjouis dans le salut que j'ai obtenu au calvaire. Voilà. Ce que je voulais dire, j'avais donné comme titre à ma prédication un titre super compliqué. Dieu suffit. Et je crois que Dieu suffit vraiment. Vous le croyez? Notre Père, notre Dieu, oui, tu es suffisant. Oui, tu es un Dieu qui te révèle. Et nous voudrions que chacun d'entre nous puisse être appelé Barnabas, être des hommes, des femmes qui exhorteront les autres, qui feront du bien aux autres, qui seront pétris de ces choses. Nous voudrions que la nuit, lorsque nous nous réveillerons, nous ne fassions pas autre chose que de nous exhorter nous-mêmes par les versets de ta parole. Seigneur, fais-nous ressembler à ce roi, fais-nous ressembler à ce prophète, fais-nous ressembler à ce Joseph. Seigneur, oui, nous voulons imiter la foi de ces hommes qui ont été des sources de bénédiction. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, tu es suffisant parce que tu nous aimes, comme on l'a chanté, rien n'est secret, tous nos problèmes, tu les connais. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, Dieu est suffisant pour toutes choses.